Radio Barque 19e, avec notre invité, comme je le précisais en début d'émission, Olivier Lapeyre, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes secrétaire du PS, de la section PS à Narbonne. Vous allez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, mais après, on va arriver, évidemment, le fond politique. Première chose, vous étiez, jusqu'à un passé assez récent, deux secrétaires sur Narbonne, avec Christine Breton, qui a quitté ses responsabilités récemment.
Oui, depuis 2015, et à la suite du dernier congrès PS. Donc le PS avait décidé de d'élire à tête de chaque section des tickets paritaires.
Hommes-femmes, toujours.
Hommes-femmes,
un
toujours.
Peu comme pour les cantonales, quoi.
Tout à fait,
des
tout à fait. C'est un peu le même modèle. Et donc, Christine et moi-même donc, avons été élus en 2015 à tête du PS de Narbonne. Voilà, et Christine a dû quitter ses fonctions il y a maintenant quelques mois pour raison professionnelle. Et donc, j'ai repris naturellement la tête du PS. Après cet épisode.
Voilà. Mais il y a une raison politique en ce qui la concerne. Bien sûr, vous ne pourrez pas répondre pour elle. Mais elle a dit clairement qu'elle rejoignait Macron.
Alors, effectivement, donc, elle a déclaré donc, via presse interposée qu'elle souhaitait rejoindre le mouvement d'Emmanuel Macron il y a maintenant quelques jours ou une semaine. Donc, elle fait partie des militantes, d'une militante du PS Narbonnais qui a fait ce choix-là.
Oui, y en a d'autres, d'ailleurs, on va probablement l'évoquer.
Pour l'instant, ma connaissance, il n'y a qu'une... C'est un cas unique pour l'instant. Je n'ai pas eu de vent de...
Dans le coin, oui, parce qu'au niveau national, il y en a d'autres.
Bon. Au niveau national...
Et puis des gens qui sont dans la mouvance socialiste depuis longtemps, il y a déjà M. Alain Perea qui, depuis des mois et des mois, a affiché clairement la couleur.
Alors vous savez qu'Alain Perea est... Et a fait ce choix-là depuis maintenant quelques mois. Ensuite, comme je l'ai dit dans la réponse à la passe que j'ai donnée, les gens sont libres de leur choix, de soutenir un candidat ou un autre, dans la mesure où ils vont faire campagne pour un autre candidat qui est celui du PS. Quand on est un concurrent de celui du PS, on se met de fait en dehors de la campagne du PS que nous allons mener aujourd'hui.
Oui, mais ça, on se met en dehors du parti également, statutairement, non ?
Alors, statutairement, ou...
Vous qui devez la fédération, manier les statuts.
Statutairement, la fédération a une commission qui est faite pour ça. Donc, elle est saisie au fur et à mesure de ce qu'elle perçoit. Et acte, et ensuite cette commission va statuer sur les cas particuliers, comme il se fait toujours depuis maintenant quelques années au PS.
Ah, ça n'est pas automatique quand on se présente à l'extérieur.
Il y a une commission qui va statuer sur une exclusion ou pas, la durée d'exclusion, si elle a lieu.
C'est la justice du parti, quoi, en quelque
c'est
sorte.
C'est un peu ça, oui.
Oui, d'accord.
Mais elle n'a pas encore donné son avis.
Oui, oui, oui. Alors, vous faites partie, Olivier Lapeyre, de ceux qui restent. Bon, vous dites qu'ils sont encore majoritaires aujourd'hui. Mais il y a quand même beaucoup d'ébullition dans le Parti Socialiste. Il y a eu ses primaires, et puis il y a la suite des primaires, et puis il y a la perspective de la présidentielle. Alors, comment percevez-vous ça, vous, alors, au niveau narbonnais, déjà ?
Alors, déjà, au niveau narbonnais, donc, les primaires ont une audience assez... assez correct, je vais dire. Elles se sont bien passées dans la production du vote. Ensuite, le résultat narbonnais a été en adéquation avec le résultat national, c'est-à-dire une avance pour Benoît Hamon sur la ville de Narbonne. Le résultat a été inversé sur le département. Et on suivait la mouvance de la région et du national. Donc, à ce titre-là, donc, on a été dans la vague qui a porté Benoît Hamon en tête au second tour. Alors c'est vrai qu'on nous aurait, un mois avant l'élection, on ne savait pas qui pouvait l'emporter.
Et oui, il y a eu un suspense jusqu'au bout.
Tout à fait, comme on l'a vu pour les primaires de la droite, où un mois avant, le candidat Fillon était totalement éliminé d'une possible victoire. Là, on a eu un peu le même effet sur la primaire de la gauche. Mais tout maintenant que l'élection est passée, que les primaires sont passées, veut dire, la règle est simple au PS, c'est-à-dire qu'on fait une primaire, et une fois que la primaire est passée, d'abord les candidats ont annoncé à la télévision que, quel que soit le résultat de l'élection, ils soutiendraient le candidat qui est arrivé en tête, et c'est la règle que doivent se fixer tous les militants au PS aujourd'hui. Et c'est largement le cas à Narbonne.
Oui, à Narbonne, mais pas partout. On sait qu'en France, ça regimbe beaucoup dans certains endroits.
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échos, enfin il y a quelques échos qui nous reviennent, mais je vois que c'est un peu justifié. Les militants. Les militants ont d'abord se sont trouvés dans un doute, les militants qui avaient voté pour Valls notamment ont eu un doute après une fois l'élection passée. Ce doute a été levé très rapidement par Manuel Valls lui-même. C'est-à-dire que Manuel Valls a tout de suite dit qu'il soutenait Benoît Hamon.
Oui, il joue la discipline de parti.
Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui étaient du staff de Manuel Valls ont été intégrées à l'équipe de campagne de Benoît Hamon, ce qui était vraiment une très bonne chose. D'ailleurs, au niveau local, je sais qu'André Viola a pas intégré l'équipe de campagne, mais fait partie des personnes qui vont compter dans la campagne présidentielle. Donc, en ce sens, on a levé les doutes des militants qui auraient été inquiétés par ce résultat. Maintenant, je pense que beaucoup sont encore dans l'attente. L'attente de quoi ? L'attente du fait que Benoît Hamon, à mon sens, doit parler un peu plus souvent à cet électorat-là. C'est-à-dire l'électorat qui a voté pour Valls, Benoît Hamon doit s'adresser directement à eux pour lever toutes les attentes qu'il pourrait avoir, notamment sur le programme. Et
Hamon et Valls, est-ce que ce ne sont pas ces fameuses deux gauches irréconciliables dont avait parlé lui-même M. Valls quand il était Premier ministre ?
Alors, je ne pense pas qu'elles soient irréconciliables parce qu'ils sont issus d'une même... Curieusement, ils sont issus d'une même mouvance politique. Ils ont tous les deux été des fils spirituels de Michel Rocard, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques mois.
Oui, mais Valls est resté quand même plus rocardien que...
Non, on a quand même oublié que Benoît Hamon était quand même un rocardien au départ.
Oui, au départ.
Retrouve un petit peu dans ces... Rocard avait deux idées fortes quand il est arrivé au pouvoir en
80 plus 7, ça fait 8, en 88.
Et on doit à Michel Rocard deux idées fortes, c'est-à-dire que la création du RMI est quand même une création de Michel Rocard. Et je pense que dans ce sens, Benoît Hamon le reprend dans son fameux revenu universel qu'il faudrait peut-être expliquer un petit peu, parce qu'il reste assez flou auprès de beaucoup de gens, mais il reprend l'idée de RMI de Michel Rocard. Michel Rocard, lui aussi, qui a vu des propositions différentes, notamment qui a créé la CSG pour sauver le système de santé de l'époque et qui aujourd'hui maintenant perdure encore. Et là, ils se rejoignent dans les propositions de Manuel Valls aujourd'hui. Donc en fait, je pense que il faut lever les doutes. Il faut que Benoît Hamon parle à l'électorat qui est encore en attente de ce côté-là du Parti socialiste pour équilibrer son électorat au sein du PS d'abord. Et après plus largement ensuite, hein. Et notamment parce que dans son programme, il reprend des choses qui ont été faites pendant ce quinquennat, et on n'en parle pas assez, parce qu'il garde encore trop, à mon sens, le côté frondeur qu'il faut qu'il arrive à gommer, et en développant ses idées, je pense qu'on peut y arriver. Il y a beaucoup d'idées qui sont dans la continuité du quinquennat, il faut plus se dire.
Justement, ce côté frondeur, est-ce que c'est pas quelque chose qu'il va traîner un certain temps, parce qu'il peut y avoir des règlements de compte en lui disant « tu nous as cassé la baraque pendant un certain temps, maintenant tu vas voir ce que tu vas voir ». Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là
ce risque-là, il peut être levé dès lors qu'il démontre par son programme qu'il ne jette pas tout de ce qui a été fait pendant 5 ans. Notamment, on a beaucoup parlé de la loi travail, sur laquelle il était contre le vote. Voilà. Et notamment parce qu'il est passé par une loi du 49-3 qui a empêché certains députés d'avoir des amendements. Et je pense que c'est ce qu'il demandait en priorité, Benoît Hamon. Quand dans son programme, moi je m'intéresse de près à ça, il parle de changer la loi travail, c'est-à-dire que de conserver une loi travail, mais qu'il va refonder. Et dans cette refondation, il garde le côté qui était extrêmement intéressant dans la loi travail, c'est-à-dire le compte pénibilité qui permet aux salariés d'avoir une retraite un peu plus proche et dans de meilleures conditions. Et également de garder le côté négociation salarial à l'intérieur de l'entreprise, de donner un peu plus de parole à tous les salariés, hors syndicat d'ailleurs, Et il veut garder ces deux piliers de la loi au travail. Et évidemment, il y a des lois, il y a des côtés qui ne lui plaisent pas, c'est son droit. Mais comme tout ce, je crois, aujourd'hui, les militants sont d'accord avec des mesures, le sont moins avec d'autres. Mais il faut arriver
Jadis, on faisait des synthèses dans les congrès.
Alors effectivement, jadis, il y avait la synthèse. Il manque aujourd'hui encore cette synthèse-là, mais qui peut arriver dans le mois et demi qui nous reste. Et c'est vraiment un vœu que j'ai, c'est d'aller vers là.
Oui, ça c'est votre vœu, Olivier Lapeyre. Maintenant, on verra s'il sera suivi. Notamment parmi les reproches des Hollandais, entre guillemets, il y a le fait que M. Hamon ne défendrait pas suffisamment le bilan. Puisqu'il l'a tapé, en tant que frondeur, il l'a démoli pendant un certain temps. Et aujourd'hui, en tant que candidat officiel, il faudrait qu'il porte le bilan de ses prédécesseurs. On lui reproche de ne pas le faire.
Alors ce reproche-là, il peut être levé, comme je le disais tout à l'heure, en épluchant un peu son programme, parce qu'on se rend compte que beaucoup de mesures sont dans la continuité. Notamment, il a un grand volet sur le côté environnemental, qu'il défend beaucoup. Et ce côté-là a été vraiment développé par Ségolène Royal pendant 5 ans sur la loi de transition énergétique, où on retrouve beaucoup de ses propositions, notamment sur les bâtiments énergivores que l'on peut largement améliorer, donnant des aides aux particuliers pour le faire, le développement des énergies renouvelables, le passage à 50% du nucléaire à l'horizon qu'il a lui ramené en 2025. Qui était auparavant un peu plus loin.
Et qui semble très difficile à tenir. Monsieur Hollande avait pris des engagements qu'il a dû abandonner.
Alors c'est vrai que pour le coup, il y aurait une accélération du processus, mais dans la mesure où ça va dans le même sens, il me semble que c'est une bonne chose. D'ailleurs, pour juste faire une parenthèse locale, quand on parle d'énergie renouvelable, on est quand même une région qui est très concernée par la question. D'ailleurs, sur les lois qu'il y a eu pendant ce quinquennat, juste pour rappeler que l'agglomération de Narbonne est un territoire énergie positive. Ça veut dire quoi, énergie positive? Ça veut dire que c'est un territoire qui favorise tout ce qui est économie d'énergie, tout ce qui est développement d'énergie renouvelable, tout ce qui concerne les transports, notamment les bornes électriques pour les voitures électriques.
Ça fait partie des axes prioritaires du Grand Narbonne, par exemple.
Et à ce titre, il y a des financements d'État qui sont arrivés au Grand Narbonne, qui ne sont pas négligeables. Ce sont des enveloppes d'abord de 500 000 euros qui sont renouvelables. Et je crois que le Grand Narbonne a dû avoir 1 million d'euros, je crois, ces dernières années. Et notamment le dernier projet, si on peut en parler un petit peu, de projet d'éolien en mer, qui est finalement le seul la seule pierre qui manque à l'édifice de toutes les énergies possibles dans la région, il manquait celle-là. Mais c'est vraiment un acte à suivre qui est extrêmement intéressant pour la suite.
Dans la mesure où d'ailleurs l'éolien terrestre est de plus en plus contesté.
Mais l'éolien terrestre est contraint par son emprise terrestre. Donc là, on trouve un champ possible qui est d'ailleurs extrêmement productif. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui ont fait bien avant nous. Et donc, je crois que le site de Glissant deviendrait le second site français en étude. Et ce qui passerait notre région à la pointe d'une nouvelle forme d'énergie.
C'est le projet, en tout cas, c'est le projet d'État, le projet pilote, tel qu'il nous a d'ailleurs été décrit ici par Henri Martin, qui est responsable à la GLO, au Grand Narbonne, de ces projets-là. Alors, Olivier Lapeyre... Monsieur Hamon est considéré, alors à tort ou à raison, vous me direz ce que vous en pensez en tant que militant, est considéré comme la gauche du PS. Traditionnellement, dans l'Aude, on n'était pas tellement sur cette ligne-là, on était beaucoup plus centré ou centriste.
Je pense que le centre de gravité du PS de Narbonne, Audois se situait sur la synthèse qui est très souvent trouvée. L'Aude est quand même une terre de gauche depuis la libération, on va dire. Vraiment très marquée à gauche. Et c'est vrai que très souvent, le PS votait quand même un peu plus à gauche que la tendance nationale. Et c'est en ce sens qu'il faut trouver une synthèse un peu plus large. À mon sens, mais ça ne pourra se faire que par des annonces. Par des annonces du candidat, quand Benoît Hamon propose des choses sur notamment le SMIC, d'augmenter le SMIC de 10%. Il se rapproche de ce qui a été fait depuis maintenant un an sur l'augmentation des petits salaires, qui a été fait donc depuis 18 mois, qui permet aux gens qui travaillent et qui ont un petit salaire d'avoir une prime qui est à peu près égale à 10% de salaire. Donc en fait, il se raccroche à ce qui a été fait pendant le quinquennat, mais il ne l'annonce pas en tant que tel. Voilà, donc voilà, moi, mon souhait, c'est qu'il aille là-dessus.
C'est-à-dire qu'il ne vous semble pas parler suffisamment clairement vis-à-vis notamment des militants et des électeurs de gauche, et socialistes.
Non, pas clairement, mais il doit raccrocher son projet à quelques marqueurs qui ont été faits pendant ce quinquennat.
Et alors, on remarque territorialement que, alors, donc, Hamon, pour simplifier les choses, c'est la gauche du parti, Valls, c'était plutôt la droite. On remarque que dans les villes, M. Hamon a fait un score supérieur à ce qui s'est passé dans le rural, par exemple, dans l'Aude. C'est à même, parfois, assez net. Alors, comment l'analyste secrétaire du PS, comment expliquez-vous ceci?
C'est très, très difficile à analyser. C'est vrai que sur Narbonne,
il est
arrivé légèrement en tête. Sur le département d'Aude, quand même, était un département particulier dans la région. C'était le second département avec les PO, à mettre Valls en tête, alors que la région a mis Hamon en tête un peu plus largement.
Oui, les PO et l'Aude ont été les seuls départements à mettre Valls.
Mais quant à la sociologie du vote entre Hamon et Valls, entre le rural et la ville, je dois avouer que je suis assez partagé sur le sujet.
Voilà, ça ne vous a pas inspiré une réflexion, une question
particulière,
et notamment des questions sur... Que sera l'avenir du PS, étant donné cette configuration et cette réalité-là?
Très honnêtement, je ne suis pas inquiet pour l'avenir du PS, notamment en Narbonne, dans l'Aude ou même dans le pays, parce que je pense qu'on saura se retrouver. Il y a eu dans l'histoire du PS des courants, des contre-courants.
Il y a toujours eu des courants, de toute façon.
Il y a toujours eu ces courants-là. Je pense qu'ils ont été exacerbés par les primaires.
Votre avis, alors, Olivier Lapeyre, pour vous, c'était une bonne idée ou une mauvaise idée, les primaires?
Les primaires, c'est toujours bon de demander l'avis aux militants. Je suis vraiment un partisan de cette idée-là.
Oui, mais vous semblez dire que ça a un petit peu déstabilisé le parti.
C'est-à-dire qu'anciennement, tout se faisait dans des congrès.
Oui, avec la fameuse synthèse.
Tout à fait. Donc là, aujourd'hui, la synthèse se fait par les primaires.
Oui, mais ça, là, c'est...
Donc évidemment, la synthèse ne peut se faire qu'après. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une primaire, il y a des courants qui s'expriment, avec des idées pour et des idées contre, avec des combats d'idées, comme on les a toujours eu au PS. Et d'ailleurs, ça ressurgit sur la primaire de la droite, où ils n'étaient pas habitués à faire ça. Et finalement, ils sont habitués au même constat que les primaires étaient un formidable laboratoire d'idées. Et je pense que le PS, encore aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, reste un laboratoire d'idées pour l'avenir. Beaucoup d'idées de Benoît Hamon sont très nouvelles. Alors on peut les partager, on peut ne pas les partager. Moi, je ne les partage pas toutes. Quand il parle d'une taxe robot, tout le monde se demande ce que c'est.
Oui.
Mais l'idée, juste pour paraître ça, l'idée n'est pas saugrenue. D'ailleurs, il y a beaucoup d'économistes qui s'y retrouvent. Et j'étais surpris de lire dans la presse que quelqu'un comme Bill Gates, qu'on ne peut pas supposer d'être...
Socialiste, avait
déjà lancé l'idée aux États-Unis de cette taxe, en fait, qui est toute simple. Lorsqu'une entreprise remplace des salariés par des robots, on comprend bien que c'est pas très bon pour le milieu salarial, ce robot peut cotiser pour les personnes qu'il a remplacées.
Oui,
sauf
que Bill Gates a peut-être eu l'idée, mais il ne l'a pas appliquée.
Voilà, donc si on parle purement idéologie, ça ne me paraît pas idiot comme idée. Ensuite, c'est vrai que sur le revenu universel, là, moi aussi, on peut y trouver des bonnes choses, des mauvaises choses. D'ailleurs, il a un peu édulcoré son propos. Mais d'abord, c'est quoi le revenu universel? Enfin, tant que tel que moi, je le conçois. Le bon côté que j'y trouve, c'est qu'il donne une autonomie et un financement aux jeunes entre 18 et 25 ans.
Oui, ça, mais vous savez que dans d'autres tranches d'âge, et pas seulement, c'est très contesté parce que ça serait ressenti comme une incitation à, tout à fait. Mais plein d'autres choses.
Là, je pense qu'il faut qu'il lève les doutes. Si juste, je voudrais parler des jeunes, donc des 18-25 ans qui n'ont pas aujourd'hui droit au RSA, ça serait quand même une formidable évolution sur l'autonomie des jeunes, notamment les jeunes qui font des études, pour leur permettre d'avoir une autonomie financière qui serait évidemment pas suffisante pour mener à bien tout ce qu'ils veulent, mais qui serait un filet de sécurité pour tous ceux qui ne peuvent pas faire leurs études comme ils le souhaiteraient. C'est d'ailleurs ce que quand j'étais passé à la ville de Narbonne en tant qu'adjoint à l'éducation à enfance et jeunesse, lorsque l'on avait instauré les étudiants dans les écoles de la ville qui faisaient des devoirs moyennant une bourse qui pouvait se monter entre 150 et 200 euros par mois, c'était justement cette idée-là. Donc là, je me retrouve là-dedans. Ensuite, sur le revenu universel généralisé, ça paraît difficile à obtenir.
Ne serait-ce que tout le monde dit que c'est infinançable, d'après ce que disent les économistes et certains technocrates.
Non, ensuite, techniquement, c'est difficile d'expliquer. Je ne suis pas économiste. L'idée que l'on peut retenir, c'est que ça serait une fusion de plusieurs aides qui existaient déjà, qui seraient fusionnées sur une seule et unique aide. Ce serait en fait un RMI qui serait augmenté. Mais dès aujourd'hui, comme j'en ai parlé tout à l'heure, j'avais mangé le terme, ça s'appelle la prime d'activité, qui est aujourd'hui donnée à tous les bas salaires qui sont juste au niveau du SMIC. C'est en fait, cette prime d'activité augmente le SMIC. Et en fait, c'est un peu le lien entre le revenu universel tel qu'il l'imagine aujourd'hui et ce qui a été fait aujourd'hui. Donc il est dommage de ne pas faire le lien pour montrer que finalement, il y a quand même une cohérence entre le quinquennat aujourd'hui, même si elle n'est pas partout, mais qu'elle existe sur beaucoup de choses.
Eh bien, c'est là-dessus que nous allons conclure, Olivier Lapeyre. Merci d'être venu en tant que secrétaire du Parti socialiste de Narbonne, de nous parler de ce parti, de la façon dont vous le ressentez. Vous qui, je le rappelle, faites partie de ceux qui y restent alors que certains sont en train de changer d'horizon. Merci. Le prochain invité sur Radio Barque sera le président audois de la CCI, Bernard Balester. Merci. À la semaine prochaine.
Je vous remercie. We'll be right back.